Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur.
En ces jours-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine ?» En effet, les juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. » Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs, j'avais hier soir, puisque je célébrais aussi la messe, préparé une homélie, parce que vous savez, cet évangile de la Samaritaine, qui est très long du reste, comme d'autres évangiles que nous entendons les dimanches de l'année en carême, la résurrection de Lazare, etc. Chaque année, vous savez, ou tous les 3 ans, le prêtre se gratte la tête, puis se dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter de différent de l'année dernière. Bon, je crois qu'en fait c'est un faux problème, c'est pas ce que Jésus nous demande. Jésus nous demande au contraire de dire l'essentiel. Et la répétition, de toute façon, ça fait partie de la pédagogie. Alors du coup, j'ai laissé mon homélie, j'ai parlé aux enfants de l'éveil à la foi tout à l'heure qui vont nous rejoindre. Et puis je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, aller à l'essentiel, c'est ça. Il faut savoir en retirer l'essentiel. Parce que ce récit de cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, Saint Jean a pris, on l'a entendu, peut-être qu'on était fatigué d'être debout, donc on comprend que Saint Jean a vraiment pris le temps de l'écrire et c'est qu'il doit donc être très important. Et de fait, il est très important et je ne pourrais pas tout dire. Donc, raison de plus pour aller à l'essentiel. Donc, cette rencontre se passe en Samarie. Et on nous disait dans le texte que les Juifs n'ont guère de relation avec les Samaritains, qu'ils considèrent comme des étrangers. Depuis le grand schisme de Salomon, 900 ans avant la naissance de Jésus, le royaume d'Israël est divisé en deux, le royaume du nord avec pour capitale Samarie, le royaume du sud, appelé la Judée, avec pour capitale Jérusalem. Et évidemment, il y a des conflits religieux. Les gens du nord ne reconnaissent pas trop les prophètes que les gens du sud reconnaissent. Et surtout pas le culte qu'il y a à Jérusalem, au temple, et c'est pourquoi eux adorent Dieu sur le mont Garizim, qui est en Samarie. Ça, c'est un peu de culture biblique pour commencer. Et on voit Jésus finalement libre de toute convention sociale ou culturelle de son époque, à double titre. D'abord, en tant que juif, il n'hésite pas à s'adresser à cette Samaritaine, qu'on considérait pourtant comme une étrangère, et même les apôtres seront eux-mêmes étonnés. Et puis, deuxièmement, en tant que rabbin aussi, Jésus n'avait pas, c'était la culture, la tradition de son époque, et je crois que ça l'est encore dans certains milieux juifs actuels, Jésus, en tant que juif, rabbin, n'avait pas non plus à s'adresser à une femme. Et donc, on voit que Jésus, finalement, est libre de toutes ces conventions sociales et culturelles. Alors, il y en a des bonnes, mais celle-ci, pour Jésus, était complètement inutile. Et c'est pourquoi il n'hésite pas à passer au-delà et à engager cette conversation avec cette femme. Alors ça, c'est déjà un premier point, parce que sommes-nous, nous-mêmes, personnellement, libres de toute convention, je ne dis pas les choses bonnes, mais de préjugés. Préjugés sur l'Église, préjugés sur le pape, les évêques, bon, si je redescends, et puis à la fin, préjugés aussi sur les membres de nos familles, nos frères et sœurs, etc. Je ne fais pas de fixation, je dis, voilà. Simplement, sommes-nous libres, nous aussi, dans la vérité et dans la charité. Deuxième point, cette rencontre, on nous dit qu'elle a lieu au puits de Jacob. Alors, un peu d'histoire encore. Jacob, vous savez, c'est ce puits, c'est à ce puits qu'il rencontre Rachel, qui va devenir sa femme. Jacob, on se souvient, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Parmi ses frères, il y eut Joseph, à qui est revenu ce puits. Donc, c'est à ce puits est en quelque sorte un lieu de pèlerinage, on pourrait dire un lieu hautement symbolique, il est le lieu d'une rencontre nuptiale entre Jacob et Rachel, et de cette rencontre, de cette union, est né le peuple d'Israël. Et donc cette Samaritaine, qui est une étrangère et à qui Jésus promet le don de l'eau vive, et on comprend qu'à travers ce don, c'est le don de l'Esprit, et évidemment qui dépose en nous, lorsque nous le recevons, toute la richesse de ces dons, on comprend que cette Samaritaine préfigure l'Église et qu'il y a là aussi un mystère nuptial à comprendre. Tout se joue ici. On peut comprendre déjà qu'à travers cette première rencontre avec, je dirais, cette étrangère territoriale, quelque part, c'est déjà l'Église des nations, l'Église des étrangers et l'Église des païens qui va rencontrer le Christ dans ce mystère d'alliance dans lequel jusqu'à présent seul Israël selon la chair avait été appelé. Et c'est pourquoi saint Paul parlera ensuite, en parlant des païens devenus chrétiens, d'Israël selon l'esprit. Et Jésus insiste lui-même parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas limité à un lieu, on peut l'adorer partout, parce que Dieu n'a pas de corps. Alors il a pris un corps en Jésus, c'est vrai, mais nous pouvons adorer Dieu partout, en esprit et en vérité, parce que le vrai temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Et saint Paul nous le disait, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Il utilise le terme « répandre » qui évoque évidemment un liquide. Hein. Qu'est-ce qui se répand ? C'est un liquide. Et donc on pense tout de suite à l'eau. Donc cette Samaritaine, troisième point, elle entend Jésus lui dire « j'ai soif ». Alors ce « j'ai soif », Jésus, on l'entendra aussi le dire à la croix « j'ai soif ». Il y a une soif physique de Jésus qui exprime un besoin vital, physiologique. Et puis il y a une soif d'amour. Et dans sa lettre « Dieu est amour », Benoît XVI aussi n'hésite pas à dire qu'il y a en Dieu une forme d'amour qui est à la fois éros et agapé. Agapé, c'est-à-dire l'amour qui se donne, qui nous tombe comme ça. Et puis éros, l'amour désir. L'amour en tant que désir, en tant que passion. Parce que la soif, nous comprenons tous, on a tous ressenti un jour ou l'autre une soif intense. La soif symbolise la véhémence d'un désir profond. Et quel est le désir profond de Jésus à cette heure-là? Alors bien sûr, au-delà de l'aspect physiologique dont j'ai parlé, puisqu'il est midi, le soleil est très haut dans le ciel, les apôtres sont allés chercher ailleurs à manger. Au-delà donc de ce besoin physiologique, Jésus a soif de l'amour des uns et des autres. Alors évidemment, au début, la Samaritaine, elle ne comprend pas. Donne-moi de cette eau, comme ça j'aurais plus besoin de m'éreinter les reins à l'épuiser chaque jour, hein, à me crever la paillasse. Et alors Jésus rentre dans le détail. Si tu savais, celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui demanderais de l'eau vive. Eh bien, cette parole, chers frères et sœurs, elle a converti la Samaritaine, mais est-ce qu'elle nous convertit, nous? Parce que nous, on pourrait se dire, nous savons qui est Jésus. Ouais, Jésus, c'est le Fils de Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Bon, très bien, blablabla. Nous savons qui est Jésus, mais est-ce que pour autant nous lui demandons cette eau vive? Ah, je dis pas, parmi nous, il y en a qui l'attendent, mais est-ce qu'on la demande? Est-ce qu'on prie Jésus? Est-ce qu'on lui dit, Jésus, donne-moi de cette eau que je n'ai plus jamais soif? Parce que dans mon cœur, il y a aussi une soif d'aimer et d'être aimé, les deux. Soif d'aimer et d'être aimé. Et sans toi, Seigneur, je ne suis pas capable d'étancher cette soif, d'étancher ce besoin. Et si dans de nombreux couples, il y a parfois des hauts et des bas, ou comment dire, un éloignement progressif qui se crée au niveau des liens affectifs, c'est parce que nos cœurs ont besoin d'être réparés en quelque sorte, réhabilités, rééduqués à l'amour véritable. Et pour cela, nous avons besoin de ce don que le Seigneur nous promet, et nous l'avons compris à travers la lecture, qui est le don de l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit Saint vient habiter un cœur, il dépose avec lui toutes les richesses qu'il apporte. Un peu comme lorsque j'apporte la lumière dans un endroit, j'apporte aussi la chaleur que dégage cette lumière, son éclat, etc. Qui a Dieu dans son cœur a tout le reste. La foi qui aime, l'amour qui croit. Et donc, nous avons, nous aussi, puisque nous avons la grâce de croire et de connaître celui qui nous parle ce matin dans cet évangile, nous avons à demander, nous aussi, à boire de cette eau vive. Si Jésus a pris l'image de l'eau, évidemment, ce n'est pas pour rien. Comme je le disais, c'est parce qu'elle fait référence à ce besoin vital en Israël, qui est un pays de cocagne. Sans eau, la vie, il n'y aurait pas de vie, tout simplement. L'image de l'eau, c'est pour nous faire comprendre qu'il y a un besoin vital. On dit que l'homme peut rester très longtemps sans manger, hein. On en reparlait il n'y a pas longtemps. C'est vrai qu'on peut jeûner 40 jours sans manger, hein. Mais on ne peut pas se priver d'eau pendant 40 jours. C'est impossible. C'est donc un besoin vital. L'enjeu est vital. Alors, chers frères et sœurs, je vais terminer ici. Je souhaiterais sincèrement que chacun prenne le temps, durant quelques secondes de méditation, après cette homélie, en posant la main sur son cœur, et simplement de prendre le temps de demander au Seigneur, en s'imaginant aussi, puisque notre cœur il est un peu à l'image de ce puits de Jacob, hein, on ne sait pas trop parfois ce qu'il y a au fond, ou ce qu'on peut y trouver, mais on dit au Seigneur, Seigneur, aide-moi à descendre au plus profond de moi-même, de rentrer en moi-même comme le fils prodigue, de rentrer en moi-même, de descendre au fond de ce puits qu'est mon cœur, et d'y trouver ta présence et cette eau vive que tu me promets. Amen.